jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Vincent Parisot sur RTL.
Dans un court instant, Céline Landreau va vous rappeler l'essentiel de l'actualité. Mais avant cela, petit détour par le 3210. Premier dossier que vous avez décidé d'aborder sur l'antenne d'RTL, cette idée, ce projet d'une carte famille monoparentale qui, à l'image de la carte famille nombreuse par exemple, permettrait d'obtenir un certain nombre d'avantages. Il faut dire qu'il y a en France 8 millions de familles monoparentales de familles monoparentales sur les 8 millions de familles avec un enfant de moins de 18 ans. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Vous en faites partie, vous êtes maman avec enfant, c'est ça ?
C'est ça, avec deux enfants.
Et cette idée d'une carte famille monoparentale qui vous donnerait quelques avantages ?
Écoutez, elle rétablirait un peu les choses, parce qu'en fait, on oublie que derrière une famille monoparentale, c'est une seule et même personne qui est la responsable de tout, c'est le chef de famille, et que...
Et que ça coûte cher. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant, Sarah. Vous nous appelez de Cannes. Je vous demande de patienter quelques instants. Le temps, évidemment, pour vous, Céline Landreau, de nous rappeler l'essentiel de l'actualité.
Avec à la une ce rassemblement devant l'établissement Ravel de Paris, établissement où, vous le savez, le proviseur a quitté ses fonctions après une altercation avec une élève qui, à propos du port du voile, Nicole Belloubet, elle, était à Bordeaux ce matin dans un établissement ciblé par des menaces d'attentats. La ministre de l'Éducation nationale qui, hier, avait annoncé la fermeture des messageries des ENT, vous savez, ces plateformes qui ont remplacé les cahiers de liaison. Elles vont être sécurisées et les services devraient être réactivés après les vacances de Pâques. C'est ce qu'a annoncé Nicole Belloubet aujourd'hui. L'inflation, elle, ralentit en mars, plus 2,3% sur un an. C'était 3% en février. Les prix continuent d'augmenter donc, mais moins vite. Et c'est particulièrement vrai dans le secteur de l'alimentation. Vous le savez, c'est le week-end pascal qui débute. Un week-end qui va se traduire par des routes encombrées. Et ça, dès ce soir, c'est rouge dans le sens des départs en Ile-de-France et en Auvergne. Rhône-Alpes, c'est orange partout ailleurs. Week-end pascal avec un temps agité, ça continue de souffler cet après-midi, notamment dans le sud-est du pays, Claire Delorme.
Exactement, avec des rafales jusqu'à 100 km/h attendues, donc dans certains endroits, principalement le long du littoral de la Méditerranée, mais également près de la vallée du Rhône. Je rappelle que deux départements sont encore en alerte, le Rhône et la Loire. Bon, cette alerte devrait être levée à 16h, mais quand même, les vents pour autant resteront violents tout au long de la soirée, donc la prudence reste de mise. On aura en revanche un ciel beaucoup plus lumineux et sec, ce ne sera pas le cas en direction du sud-ouest vers le quart nord-est, où là les pluies elles auront tendance à faire du surplace et en prime elles auront tendance à être davantage marquées en soirée, que ce soit sur le sud de l'Aquitaine, avec en prime quelques orages. En revanche, plus au nord, eh bien ça sera un ciel beaucoup plus changeant, un petit peu plus calme. On aura un petit peu de tout, des passages nuageux mais aussi quelques giboulées, des éclaircies et le vent également qui va se renforcer près de la Manche jusqu'à 50 km/h. Quant aux températures, elles sont vraiment douces. Et ceci, eh bien, c'est dû à ce vent, à ce flux de sud justement qui porte avec lui cette douceur provenant du Maghreb. Ça se traduit par 12 à 15 degrés pour la moitié nord et de 15 à 21 degrés pour la moitié sud.
Et pour le reste du week-end, Claire ?
Alors c'est un week-end tout aussi dégradé. Les pluies qu'on retrouve sur cet axe en sud-ouest-nord-est, on va les retrouver encore dans la journée de demain, principalement sur une large moitié est du pays. Elles auront encore tendance à faire un petit peu du surplace. Bon, le soleil reviendra un petit peu plus à l'ouest. En revanche, j'attire votre attention toujours sur le vent qui sera de la partie sur le quart sud-est et au risque d'avalanche, parce que c'est certes un week-end pascal, mais on aura peut-être des vacanciers qui auront envie de profiter de la neige. Donc un risque d'avalanche important, assez marqué, de 4 sur 5. Donc là aussi, on reste prudent.
Ben voilà, attention, merci beaucoup Claire. Attention si vous êtes à la montagne, au risque d'avalanche. Attention en voiture, au vent et à la pluie, soyez prudent.
Et cet après-midi, dans le jardin, à ne pas écraser les œufs.
Ben oui, franchement, il faut faire très attention.
Oui,
soyez bien à l'écoute d'RTL, évidemment. On sera avec vous dans RTL. Le soir. Je vous souhaite un bon week-end pascal, même si vous appelez Céline.
Je vous remercie, Vincent.
Voilà, forcément.
Vous la sortez tous les ans, celle-ci ?
J'aime bien. Merci beaucoup. Et vous serez là lundi, d'ailleurs, ou pas ?
Bien sûr, oui.
Voilà, avec Eric.
Pour les braves.
Je n'en doute pas. à 13h05, on va retrouver Sarah, qui est à Cannes, je vous le rappelle. Bonjour, Sarah.
Bonjour.
Plutôt re-bonjour. Donc, ce projet de carte de famille monoparentale, pour l'instant, ce n'est qu'une proposition venue du Sénat, mais on imagine, par exemple, qu'elle pourrait faciliter l'accès à une place en crèche, qu'elle pourrait permettre d'avoir des réductions sur le coût de la cantine, des transports publics, permettre peut-être d'accéder plus facilement à des colonies de vacances, des activités culturelles, sportives. Parce que vous nous le disiez tout à l'heure en préambule, Sarah, on oublie un petit peu facilement, on parle comme ça de ces familles monoparentales, c'est une famille sur quatre hein, quand même en France, mais tout repose sur un seul salaire et ça, c'est parfois très compliqué. Vous êtes, je crois, quelle est votre profession d'ailleurs, Sarah ?
Je suis en profession médicale.
Profession médicale, paramédicale. Voilà. Et j'imagine que c'est pas forcément simple avec deux enfants à charge.
Pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens oublient, alors qu'on soit un homme ou une femme, hein, pour le coup, hein, parce que moi, dans le médical, on n'a pas la disparité de salaire, oui. C'est qu'il y a quand même une division par deux du revenu, avec des charges qui sont les mêmes, alors qu'avant, on les payait à deux, ou c'était mieux réparti par celui qui gagnait un peu plus. Mmh. Donc, en fait, il y a ça. Il y a aussi le niveau d'imposition qui est complètement défavorable, parce que du coup, vous vous retrouvez toute seule, pas mariée,
c'est
ou
ça.
Plus mariée.
C'est ça, célibataire.
Taxé davantage, même si vous avez, parce qu'on a une demi-part, donc... Autant vous dire que la particularité, c'est que le coût de la vie, il est énorme parce que c'est un loyer, la nourriture, les frais de santé. Et même si vous avez une pension, même si le papa, il vous aide, etc., etc., c'est compliqué. Vous n'avez pas le droit à l'erreur.
Et vous parlez de droit à l'erreur. Est-ce que, j'ai envie de dire, vous n'avez pas de droit du tout? Vous n'avez pas d'aide?
C'est-à-dire que, il faut...
Parents isolés, vous y avez droit?
Non. Non, parce qu'en fait, je suis dans la tranche où je travaille. Je n'ai rien. Ce qui m'apparaît quand même aberrant, c'est sur le centre aéré, moi toute seule, deux enfants. Et j'ai payé plein pot, alors que mon amie qui travaille, qui a deux enfants, qui est cadre, qui a son mari, elle payait moins cher.
Alors là, moi, je. Et comment ça s'est fait? Comment ça se fait ça?
expliquez-moi. Je n'en sais rien, mais voilà. Et pour tout ça, en fait, et c'est là où, et c'est pour ça que vous avez des familles monoparentales, et je répète, hommes et femmes confondus, qui sont en grande difficulté, et parce que en fait, on paye plein pot alors qu'on est tout seul et que les frais, on prend pas en compte que une réduction. En effet, sur une place, alors vous me direz, si j'ai de la chance d'aller au théâtre, c'est formidable, mais l'accès à la culture, c'est pouvoir. Avoir des enfants qui réfléchiront plus tard. C'est
bien sûr,
une place de cinéma. Une place de cinéma aujourd'hui, alors c'est compliqué. Donc il faut que je les emmène le matin aussi, c'est mieux. Ou sinon, c'est des jeux de calcul. Vous n'avez pas envie, vous travaillez. C'est pas juste. Et on n'a pas toujours choisi. Hein. Les gens pourront vous dire oui, elle n'avait qu'à pas divorcer. Mais on ne choisit pas toujours. On n'est pas toujours.
Évidemment, c'est des parcours de vie. C'est parfois ce qu'on appelle des accidents de la vie.
Tout à fait, et on peut être famille monoparentale tout simplement, par exemple, comme une amie, parce qu'elle a perdu son mari, et elle devient famille monoparentale, elle a rien.
Exactement, voilà. C'est rarement un choix, hein. c'est rarement un choix.
Exactement.
De toute façon. Ce qui est certain, vous nous l'avez dit, c'est que vous travaillez, vous payez des impôts, vous n'avez pas donc droit à l'allocation parents isolés.
Non, on n'a rien. Je fais partie, on est beaucoup de mamans comme ça, hein, où on bricole, et puis... Et puis souvent, oui, c'est les mamans qui gagnent quand même parfois un peu moins, qui s'ébrouillent un peu plus. Bien que les papas quand même soient présents, attention, mais c'est pas non plus au rôle des papas parce que aussi on leur charge leur société.
Ils sont souvent présents, pas toujours. Hein, ça, évidemment, il y en a qui oublient parfois des défis financièrement, la maman. Merci beaucoup, Sarah. On vous souhaite une bonne journée du côté de Cannes. On sera avec Dominique dans un instant, qui justement rappelle qu'il existe déjà l'allocation parents isolés. Et puis Françoise a fait le 32-10. Et puis... d'autres auditeurs d'RTL qui vont intervenir dans un instant. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30, Vincent Parisot vous donne la parole sur RTL. Vincent Parisot, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Ça, c'est une émission qui est réalisée, entre autres, grâce à Victor Darcas, que je salue. Bonjour Victor.
Bonjour Vincent.
Alors, avant de revenir sur cette carte monoparentale qui vous fait réagir au 32-10, quels sont les sujets qu'on va vraisemblablement aborder? Je dis vraisemblablement parce qu'évidemment, vous avez le choix. C'est vous qui faites cette émission et si vous voulez intervenir sur d'autres sujets, vous n'hésitez pas à vous décrocher 32-10.
Mais vous l'avez certainement entendu, 900 annonces par mois sur Facebook, sur un un groupe de troc contre de la nourriture qui fait fureur en Mayenne sur les réseaux sociaux. De nombreux groupes permettent de vendre ou de donner ses affaires. Dans certains groupes, eh bien, c'est de la nourriture qui devient une monnaie d'échange. Et vous pouvez nous appeler là-dessus.
C'est-à-dire que, par exemple, je vends le vieux tricycle en plastique de je vends. J'échange le vieux tricycle en plastique qui pourrit dans le grenier contre
une boîte de gâteaux, par exemple.
D'accord.
Il y a énormément d'annonces de ce type sur ce groupe.
Eh ben, si ça vous intéresse ou si vous y participez, n'hésitez pas. 3210. Autre actualité qui va nous intéresser, les zones commerciales en périphérie des villes. Vous savez, ce qu'on appelle la France moche.
Oui, le gouvernement lance la lutte contre ces zones commerciales, ou en tout cas leur aspect. 74 communes ont été sélectionnées dans le cadre d'un plan de transformation. À la clé, 26 millions d'euros pour les rénover. Elles ne concernent pas moins de 72% des dépenses de Français en magasin.
Je vous rappelle aussi qu'on peut évoquer ce MeToo dans l'armée, c'est-à-dire les femmes qui, dans l'armée, commencent à évoquer les agressions sexuelles dont elles ont été victimes. Et si c'est votre cas, vous n'hésitez pas. 3210, il y aura aussi de la musique peut-être.
Oui, pourquoi pas. Pour bien terminer l'émission, racontez-nous vos meilleurs souvenirs de Michel Sardou. Le chanteur tire sa révérence.
Elle court, oui. Elle court, la maladie d'amour.
Dans le cœur. Le chanteur tire sa révérence ce soir.
77 ans. Je peux pas m'empêcher. Elle chante. Bon, continuez.
Bon, le chanteur tire sa révérence ce soir lors d'un dernier concert à Brest.
Oui.
Du Vincent, ce week-end, c'est Pâques.
Cheveux blancs, les cheveux. Je ne peux pas m'empêcher de chanter avec Michel. Pourquoi Pâques, évidemment.
Pourquoi pas? Est-ce que vous allez faire cette fameuse chasse aux œufs traditionnelle? On peut en parler également, c'est vous qui faites le programme après tout.
Évidemment. On suit la tendance du 3210 et vous vous retrouvez évidemment sur l'antenne. Grâce à vous, Victor, grâce à Enzo, Margot, Cerise et Azad qui vous attendent au 3210. 3, 2, 1, 0.
Vincent Parisot. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Dominique est à Lyon. Bonjour Dominique.
Bonjour cher Eric, bonjour à tous.
Alors, le vendredi c'est Vincent, mais c'est pas grave, je suis ravi quand même d'être avec vous. Mais il n'y a pas, à vous pardonner ni à vous excuser. Je voulais juste le signaler. Je dis ça parce que tout à l'heure on était avec Sarah, vous l'avez peut-être entendu, qui disait qu'elle n'avait pas droit à l'allocation parents isolés. Je dis ça parce que vous appelez ce matin en nous disant oui mais c'est gentil, il y a déjà l'allocation parents isolés, faut pas exagérer.
Oui, alors je dis simplement que l'État ne peut pas tout. Pour les cas les plus sensibles, il y a cette allocation parents isolés. Et pour tous les autres cas, c'est nos impôts, c'est vos impôts, c'est les miens. Et je pense qu'on devrait plus se tourner vers les pères, parce que souvent ce sont des femmes qui sont isolées. Parce que vous avez des hommes qui lâchement abandonnent leur conjointe et qui n'assument pas, alors qu'ils pourraient le faire, financièrement.
Alors c'est ce que je soulignais d'ailleurs. Il y a souvent les pères qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Même si depuis quelques années, l'État est un petit peu plus regardant qu'auparavant sur les pensions impayées, mais il faudrait peut-être accentuer ça, c'est ce que vous dites, Dominique.
Oui, et il n'est pas assez regardant par rapport à ça. Effectivement, j'ai beaucoup de cas de mères isolées qui ont dû se séparer de leurs conjoints, souvent ce sont des conjoints même qui peuvent être violents, et qui pratiquement abandonnent totalement leurs enfants. Mais ils se battent pour ne pas payer de pension alimentaire, c'est terrible. Encore hier, j'avais plaidé un cas où vous aviez
donc
le père...
Donc vous êtes avocat, Jean...
Oui, tout à fait.
Oui.
Et donc j'avais le père qui se battait bec et ongle, et à qui le juge disait « Mais monsieur, soyez raisonnable, vous avez les moyens. Donc on va vous demander de payer une pension. » Et il disait « La mère n'a qu'à mieux gérer son budget. » C'est quand même terrible quand on entend ça. Donc en tout cas, je pense qu'il faut surtout prioritairement s'intéresser à l'histoire individuelle de chacun et de voir les cas où il y a un père qui pourrait assumer son rôle, ou une mère qui pourrait assumer son rôle, plutôt que de faire des généralités.
Pas généraliser cette carte qui créerait aussi effectivement un effet, peut-être aussi un effet d'aubaine pour certaines...
Des risques de fraude aussi.
Vous savez, j'ai des personnes qui prétendent,
j'en ai beaucoup, qui me font lancer des procédures, qui après demandent à la CAF des allocations, justement, parents isolés, et puis après je n'en entends plus parler. Au bout de 6 mois, ils reviennent me voir en disant « Je veux relancer la procédure parce parce que la CAF me demande un papier comme quoi j'ai bien lancé une demande vis-à-vis de mon conjoint. Donc vous voyez, donc je vois tout de suite, vous voyez ça. Mais pendant 6 mois, je demande des pièces, on ne les donne pas, la procédure n'avance pas, et j'ai même des doutes sur le fait que cette personne soit vraiment isolée. Ouais. Donc il y a des risques de fraude énormes. On ne peut pas dire aux gens, vous avez plus d'intérêt à faire croire que vous êtes isolé qu'à rester avec votre conjoint.
Bien évidemment, Dominique, et c'est très clair. J'en profite d'ailleurs pour dire que pour l'instant, cette carte famille monoparentale, elle n'existe pas. Oui. Hein, c'est juste un projet qui a été lancé. Et on peut imaginer effectivement qu'il y aurait un certain nombre de... Si jamais le projet arrivait à son terme, qu'il y aurait un certain nombre de moyens mis en œuvre pour vérifier la réalité, évidemment, de l'isolement de chaque parent. Merci beaucoup, Dominique. Je vous souhaite une bonne journée à Lyon. Françoise est en ligne. Bonjour, Françoise.
Bonjour Vincent, bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous entendiez peut-être à l'instant avec Dominique évoquer le cas de ces souvent des mères de famille effectivement qui sont seules avec un père complètement absent. C'était votre cas ?
Tout à fait. Le papa de mes enfants a abandonné les enfants et ne versait aucune pension qu'il aurait dû verser normalement. Je bénéficiais en effet de ce fait de la pension de l'allocation de parents isolés qui était de 30 euros par mois.
Combien? Donc, 30 euros par mois?
Oui, mais 30 euros. 30 euros par mois. Mais alors mes
enfants combien sont... Pour deux enfants?
J'avais 30 euros par mois par enfant.
Ah, d'accord.
Donc, c'est peu quand même.
C'est très peu.
Alors, lorsque mes enfants étaient jeunes, j'étais puéricultrice à l'hôpital et je travaillais de nuit par choix pour pouvoir les voir plus souvent.
Oui.
Et j'avais donc une jeune fille étudiante qui venait dormir à la maison quand je travaillais les nuits. Et ma prime de nuit servait à payer cette étudiante pour que je puisse, moi, aller travailler. Par chance, il y avait les mamies des filles qui étaient à Nantes donc, pour les week-ends, parce que c'est un week-end sur deux qu'il faut organiser quand on est seul.
Oui.
Les mamies étaient à Nantes, donc ça allait et j'arrivais à m'organiser. Mais je voudrais, en dehors de tout cet aspect financier, dire quelque chose par rapport à cette carte éventuellement qui pourrait aider certaines mamans, parce que moi j'étais puéricultrice à l'hôpital, j'avais un salaire correct, et il y a d'autres femmes qui sont beaucoup plus
dans la difficulté.
Mais en dehors de cet aspect financier, une maman qui est isolée, qui a ses enfants 365 jours par an, parce qu'il n'y a pas un week-end sur deux, parce qu'il n'y a pas la moitié des vacances assurées par le papa des enfants, eh bien, il y a cet isolement, cette solitude de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit parce qu'on a les enfants, parce qu'on n'a pas les moyens forcément de payer une nourrice en soirée.
Oui, donc plus de sorties, plus de vie sociale, isolement. Et vous dites que ça peut aider, donc que ça répondrait à un réel besoin, en tout cas pour certaines, et pourquoi pas pour certains, mais effectivement pour de nombreuses mères de famille qui, du fait de leur situation de parents isolés avec un faible salaire, se retrouvent en plus totalement isolés socialement. Et que ça leur permettrait de sortir un peu la tête de l'eau. Et vous auriez aimé en profiter, j'imagine, si cette carte avait existé.
Tout à fait, parce que même si j'avais un salaire qui était correct, assurer une soirée de babysitting en plus des nuits de l'étudiante, plus, je sais pas, un petit repas au restaurant, même si c'est pas très cher, plus, et bien dans mon budget, et à l'époque, je payais ma maison toute seule.
C'était pas possible. Or, c'est pas du luxe, mais ça aurait été très important.
C'était impossible, mais ça aurait été extrêmement important.
Bien sûr.
Je pense que cette carte, elle pourrait être adaptée, non pas open bar, comme disait le monsieur qui a parlé, qui peut en effet être source de fraude, mais adapté et par rapport à une situation. Et
Je suis obligé de vous couper, Françoise, mais en tout cas, c'était très intéressant. Merci de votre appel. Je vous souhaite une bonne journée. Je salue d'ailleurs vos deux filles. Une courte pause. On se retrouve tout de suite au 3210.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210.
50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Vincent Parisot sur RTL.
Vous pouvez vous exprimer directement sur l'antenne au 3210 et puis joindre l'appli RTL, soit pour nous laisser des messages vocaux ou des messages écrits. Je voudrais qu'on prenne un petit peu la température de tout cela avec vous, Enzo. Bonjour Enzo.
Bonjour Vincent, bonjour à tous. Beaucoup de réactions sur notre répondeur et sur notre page Facebook et nos internautes sont plutôt partagés. Jean-Michel nous dit « Quelle honte, je connais des mères célibataires avec 3 enfants, leur aide est supérieure à la retraite de mon papa qui a travaillé toute sa vie. Mmh. » À 13h30, nous parlerons du plan de transformation des zones commerciales présenté aujourd'hui par le gouvernement. Vos avis et témoignages au 3210.
Voilà ce qu'on appelle la France moche, les zones commerciales en périphérie des villes. Le gouvernement a décidé d'améliorer en tout cas leur aspect et notamment par exemple d'y installer des jardins, des pelouses et puis des immeubles d'habitation. On en parle si vous le souhaitez avec vous au 3210. Corinne est avec nous du côté de la Île-et-Rose. Bonjour Corinne.
Bonjour Vincent.
Bienvenue maman. Merci. D'une petite fille.
D'une grande fille de 12 ans.
D'une grande fille, mais maman solo.
Maman solo, oui, depuis 4 ans, depuis 5 ans. Oui.
Bien. Et quand vous avez entendu parler de cette hypothèse d'une carte famille monoparentale qui donnerait un certain nombre d'aides ou d'avantages, ça vous a intéressé ?
Oui, je trouve ça pas mal. Un peu comme l'auditrice précédente, ce ne sont pas forcément des aides pécuniaires, mais des aides pour obtenir des choses que d'autres ne peuvent pas obtenir. Ouais. Alors qu'on gagne autant. Moi, dans mon cas, je cherchais un appartement depuis septembre dernier. Et en région parisienne. Ouais. Et c'est très difficile d'avoir un salaire qui représente 3 fois le loyer.
Oui, même en étant seul, j'allais dire même avec un bon salaire, vu les loyers pratiqués en région parisienne, vu le montant des loyers, si vous voulez une chambre pour votre fille, ce qui paraît quand même la moindre des choses aujourd'hui.
En fait. Il me fallait 2 chambres. Et j'aurais pu trouver un appartement qui faisait 3 fois, qui représentait le tiers de mon salaire, mais je n'aurais pas eu ma chambre.
C'est ça.
Or, mon séjour serait devenu ma chambre. Mon bureau, parce que je fais du télétravail, et la pièce dans laquelle je reçois mes amis, ma famille.
Non, et puis c'est important pour un enfant, surtout à partir de la préadolescence, d'avoir son intimité.
Elle aurait eu sa chambre. C'est moi qui n'aurais pas eu la mienne. Je m'aurais forcément cédé la chambre.
Oui,
puisque les enfants vivent dans leur chambre, nous, on ne fait qu'y dormir. Mais c'était important pour moi d'avoir 2 chambres, d'avoir ma propre chambre.
En fait,
la difficulté de nos jours, c'est que la plupart des propriétaires ont une GLI, une garantie loyer impayé.
Oui.
Et l'État impose qu'on ne puisse pas cumuler la GLI du propriétaire plus un garant. Mmh. Or, moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui se portaient garants pour moi.
Oui.
Sauf que 99% des propriétaires ayant une GLI, je ne pouvais pas
invoquer la caution.
Je ne pouvais pas utiliser mes parents, en fait.
La caution de vos parents. Vous avez réussi à trouver quand même un logement ?
Au bout de 6 mois. J'ai déménagé il y a une semaine.
Bon, attends, vous êtes bien là où vous êtes ?
Je suis très contente, mais j'ai la chance d'avoir un propriétaire qui a eu confiance en moi. Et dans mes parents, mais j'ai habité dans une maison pendant 14 ans, juste avant, dont le loyer représentait la moitié de mon salaire. Et j'arrivais à payer mon loyer.
Cette règle du tiers est parfois terrible. Donc, bon, et pourquoi pas que on ne sait pas ce qu'il y aura dans cette carte famille monoparentale.
Non, mais ce que j'aimerais, par exemple, avec cette carte, c'est que l'État puisse se porter garant pour nous ou que l'État accepte pour les familles monoparentales que le garant puisse être cumulé à la GLI, par exemple.
Bien sûr. Bon, voilà, très bonne idée, lancée. Je sais qu'on nous écoute dans les ministères. Donc, pourquoi pas reprendre cette proposition de Corinne de l'Île-et-Rose, que je salue, que je remercie pour son appel. Vous embrassez également votre grande fille. De notre part, à bientôt Corinne sur l'antenne d'RTL. On parle beaucoup des mamans solo avec cette carte famille monoparentale, mais n'oublions pas les papas solo. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour.
Du côté de Bordeaux, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Vous êtes vous-même artisan. Ce que je vous propose pour que notre conversation soit fluide et pas interrompue dans une minute, c'est de faire tout de suite la page de coupure de pub. Et puis je vous retrouve dans un instant, Sébastien, au 3210.
Les auditeurs ont la parole.
Avec Vincent Parisot sur RTL.
Vincent Parisot.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
On va donc retrouver Sébastien à Bordeaux au sujet de cette idée, c'est même pas encore un projet, c'est discuté au Sénat, de titre de carte de famille monoparentale à l'image de la carte famille nombreuse qui donnerait un certain nombre d'avantages. Il y a près de 2 millions de familles monoparentales aujourd'hui en France, quasiment une famille sur 4. Sébastien, donc on vous retrouve du côté de Bordeaux, je crois que vous êtes artisan, c'est cela ?
C'est ça, tout à fait.
Et papa solo d'un garçon ou d'une fille ?
D'un petit garçon de 5 ans et demi.
Alors tout à l'heure, on était avec Dominique, je crois, qui était avocat, qui nous disait « Oui, mais très bien, mais faut pas généraliser ce type de carte, parce que d'abord, il y aurait des fraudeurs, et puis il y a quand même beaucoup de parents isolés qui s'en sortent très bien. Vous, c'est pas votre cas, Sébastien. Vous avez vraiment du mal financièrement en étant tout seul.
Ouais, tout à fait. Après, bon, toujours, dès que y a une mesure, il y aura toujours des fraudeurs. Et ça, c'est c'est un autre débat, c'est l'état de l'humain, quoi. Bien sûr. Il y a toujours des fraudeurs. Oui. Mais bon.
Vous n'avez évidemment pas. Je crois que la maman est décédée, c'est ça, la maman de votre enfant ?
Oui, c'est ça, la maman est décédée en 2020 d'un cancer. Mmh. 10 jours après le 27 mars, donc 10 jours après le Covid, donc ça a été très très compliqué.
Ouais, j'imagine.
Parce qu'on n'a pas pu assister à l'enterrement, etc. Voilà. Bon, c'était compliqué. Et puis, donc du coup.
Donc vous avez là, aujourd'hui, vous n'avez pas de pension ou autre à percevoir.
Pas de pension, non. Voilà, c'est ça. Voilà, pas de pension. Hein.
Donc ça veut dire que faut que vous assumiez avec votre salaire d'artisan, tout ce qui concerne votre enfant, ses activités. J'imagine que c'est compliqué.
Ben c'est très compliqué parce que moi je privilégie mon fils donc par rapport à par rapport à sa croissance, par rapport à l'éducation, les loisirs et compagnie.
Bien sûr.
Et comme je disais au standard, moi ça fait des années que j'ai pas mis les pieds dans un magasin pour m'habiller. Alors que le gamin, je l'habille, on fait des sorties, j'en ai pas assez à la fin du mois pour payer mes factures. J'ai même fait appel aux services sociaux, à la MDSI pour m'aider à payer mes factures. Bon, j'ai pas eu de retour parce que le seul problème, mais c'est aussi un avantage, c'est que je suis propriétaire de mon logement, oui. Par rapport à tous les auditeurs qui ont appelé précédemment, qui galéraient pour chercher un logement.
C'est important. C'est vrai que ça donne. Je veux pas parler de confort parce que vu votre situation, mais ça donne une assurance. Voilà.
Oui, je suis chez moi. Je suis chez moi. J'ai pas de loyer à payer. La maison, on est payé. On est chez nous. Sauf qu'aujourd'hui, j'arrive pas à payer les factures. Donc, ma crainte aujourd'hui, bon, même si elle est encore limitée. Parce que on n'est pas encore dans ce schéma-là, mais je veux pas perdre ma maison parce que je peux pas payer les factures.
Oui, bien sûr. Vous êtes artisan. Voilà. Quel type d'artisanat qu'est-ce que vous faites exactement ?
Dans la restauration du bâtiment ancien.
D'accord, restauration du bâtiment ancien. Et pour avoir juste une petite idée, je veux pas être trop intrusif, évidemment, mais en termes de revenus, ça représente quoi ?
Je vais pas être trop long parce que je sais qu'il y a du monde qui attend. Quand je me suis réinstallé, je me suis sorti un SMIG, donc 1142 euros par mois, ce qui est dérisoire. Il m'est arrivé une bricole de santé. J'ai eu, vous en avez parlé d'ailleurs, le docteur Jimmy Mohamed en a parlé sur vos antennes le matin avec Amandine Bégaud et Calvi. J'ai eu une fasciite nécrosante. Donc je me suis fait manger le bras par un streptocoque A. Donc j'ai eu 9 mois d'arrêt et j'ai pas été indemnisé parce que je ne gagnais pas assez. Donc là j'ai relevé mon salaire.
On comprendra. Grande difficulté. Ouais, j'imagine, par exemple, vous êtes seul avec votre enfant qui va à l'école, mais parfois il y a des journées, il y a des grèves ou il y a d'autres raisons de ne pas aller à l'école, même s'il est malade. Comment vous faites?
Ah ben je veux pas travailler. Je vais pas travailler. En même temps, c'est mon patron.
Donc vous perdez une journée de travail. Enfin, en tout cas,
je perds une journée de travail concrètement,
Bon, voilà. Alors donc la carte, elle serait bienvenue, si je comprends bien, Sébastien.
Voilà, alors je disais à la dame qui m'a reçu au standard, je ne connais pas le contenu et je suis en train de vous écouter, donc c'est pour ça que je...
Non, mais on ne le connaît pas encore bienvenue, hein, on ne le connaît pas encore clairement, le contenu. On peut imaginer que, par exemple, sur les transports, ça permettrait d'avoir, ou sur la cantine à l'école, peut-être des places en crèche, on ne sait pas, on peut imaginer un certain nombre de choses qui permettraient de donner un petit peu d'oxygène à toutes ces familles monoparentales.
Oui, c'est un petit peu l'accès déjà aux choses qui sont obligatoires.
Voilà.
Effectivement, comme vous disiez, la cantine, la garderie, alors la garderie, ils aiment pas trop, centre de loisirs, voilà, des choses qui sont obligatoires pour que les parents puissent aller bosser, ramener un peu de thunes à la maison et en laissant les enfants voilà en bonne surveillance,
c'est
pour
ça.
Que les parents assument leur tâche, quoi.
C'est tout ce qu'on souhaite effectivement pour des familles telles que la vôtre, Sébastien. Vous souhaite beaucoup de courage en tout cas.
Merci beaucoup d'avoir pris mon appel en tout cas.
Du côté de Bordeaux, à bientôt et merci de votre fidélité.
Et si vous avez Philippe Cavrivière dans vos couloirs, envoyez-lui le bonjour parce que je l'aime beaucoup.
Je vais lui dire. Merci beaucoup Sébastien, à très vite sur RTL et merci de votre fidélité.
À bientôt, merci beaucoup.
Nathalie est avec nous, bonjour Nathalie.
Oui, bonjour Vincent, bonjour aux auditeurs.
Bienvenue. Alors je lis sur votre fiche, j'étais une maman monoparentale. Est-ce que ça veut dire que l'enfant ou les enfants ont grandi ou est-ce que ça veut dire que quelqu'un est arrivé dans la famille?
Les enfants ont grandi. C'est juste une expérience que je souhaitais partager.
Oui.
Des années 1990,
oui.
Donc il y a 23 ans, où je me suis retrouvée seule. Le papa est parti à l'étranger, donc depuis 24 ans, j'ai pas de nouvelles.
Aucune nouvelle, aucune aide.
Alors, j'ai sollicité, donc j'avais un commerce,
aide de la part du papa, hein.
Ah oui, non, absolument, non, hormis les impôts qu'il m'avait demandé de payer sa part.
Ah oui, d'accord,
mais bon.
Okay, d'accord, okay.
Voilà.
Vous avez ça en cadeau, c'est sympa.
Oui, et les impôts à titre indicatif ou anecdotique m'ont dit, ah, mais vous étiez mariée pour le meilleur et pour le pire.
Et vous avez le pire, voilà.
Oui, c'est ça, là, ce jour-là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Bon. Et donc, j'ai dû fermer mon commerce. J'ai retrouvé un emploi très, très rapidement. À l'époque, j'ai gagné 800 francs. D'accord, 800 francs. Donc, parce qu'un commerce, c'est des revenus assez aléatoires.
Bien sûr.
Ouais. Donc là, au moins, j'ai privilégié, un revenu fixe.
Voilà, c'est ça, un salaire.
Voilà. Et donc, je suis allée voir l'assistante sociale.
Ouais.
Et puis, j'ai sollicité l'allocation parents isolés.
Oui.
Bon. Et on m'a dit, donc c'est tout un calcul assez savant, semble-t-il, et puis j'avais 100 francs de trop. Je gagnais 100 francs de trop. Donc aujourd'hui, dans ma petite tête, si je fais la conversion, c'est 15 euros.
Ouais.
Voilà.
Donc 100 francs de trop, et vous ne pouviez pas avoir l'allocation parents isolés qui était de plusieurs centaines de francs.
Oui, hein, rien du tout. Donc, je travaillais à plus de 25 km de chez moi. Mes enfants, c'était les premiers à la garderie le matin.
Ouais.
C'était deux enfants, 6 ans et 4 ans. Midi, la cantine, et les derniers à la garderie le soir. Et comme je m'invite à dire à mes collègues aujourd'hui, donc j'ai 57 ans, à l'époque, c'était pas du 35 heures. Hein. On était à 39, voire 42 heures par semaine. Donc, cette carte est sympa. C'est surtout... Alors, c'est pas sur l'aspect financier.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis dans le social et juridique. Et les aides financières, j'ai envie de dire, on en use et on en abuse. Pour
beaucoup
de personnes.
Oui, c'est ce que je disais aussi. Et puis, il y a de la fraude. Et puis, il y a de la fraude.
Mais oui, en plus, ça, je le vois au quotidien, malheureusement, c'est toujours pour les mêmes, bon. Mais plus sur l'aspect technique, je pense que mes enfants, ils ont pas dû être souvent malades, parce que moi, j'avais que 5 semaines de congé payé aussi.
Vous pouviez pas vous permettre, ils pouvaient pas être malades, c'est-à-dire qu'ils avaient un peu de fièvre, ils allaient à l'école quand même.
Bah, tant pis, tant pis. Bon, aujourd'hui, ils vont bien, tout le monde va bien.
C'est plutôt effectivement une aide, j'ai envie de dire, sociale, enfin, en tout cas.
Oui.
Et puis, comme le disait tout à l'heure une auditrice aussi, permettre peut-être à ces mamans, ou papas d'ailleurs, hein, qui consacrent leur vie à l'éducation de leurs enfants, de pouvoir respirer un peu de temps en temps, en pouvant prendre peut-être une nounou un soir pour aller au cinéma. J'imagine que c'est cela. Je vous remercie beaucoup, Nathalie. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, on a fait le tour. C'était qu'un projet, hein, et j'imagine que petit à petit, ça va se préciser. Et donc, on aura l'occasion d'y revenir, évidemment, avec vous au 3210. Autre thème que l'on va développer dans quelques secondes sur l'antenne d'RTL, ces zones commerciales que l'on trouve à la périphérie des grandes villes, avec évidemment ces panneaux publicitaires, ces grandes enseignes, ces hangars, ce béton. Le gouvernement veut changer tout cela. Eh bien, on en parle avec vous au 3210. À tout de suite.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
Il fait plutôt bon vivre malgré que ce soit encore un petit peu en travaux. Moi, c'est plutôt pour le côté pratique. Je suis conducteur de tramway, je prends le tramway ici à Mérignac-Soleil. Donc là, il y a le côté pratique, l'accessibilité avec les commerces. Bah, ça reste, on va dire, une zone, on va dire, commerciale, donc c'est pas forcément vivant, mais après, c'est un choix. Ça se développe beaucoup, donc ce qui fait peur, c'est ce qui se construit autour.
Voilà, ça, vous l'avez peut-être entendu, c'était cet habitant de la zone commerciale Soleil Mérignac, Sébastien, qui était avec Philippe Demaria, dans le cadre, j'allais dire, de la transformation, du plan de transformation de ces zones commerciales. Ça a déjà commencé dans celle de Mérignac. 74 communes et intercommunalités ont été sélectionnées par le gouvernement dans le cadre de ce plan de transformation qui prévoit de verdir ces zones, d'y ajouter des logements, effectivement 25 000 le nombre de nouveaux logements possibles pour ces zones commerciales. C'est le chiffre qui est avancé par le ministère. Virginie nous appelle de Marseille, je crois. Bonjour Virginie.
Bonjour Vincent, bonjour aux auditeurs.
Bienvenue. Ah bah autour de Marseille, il y en a aussi, hein, pas mal de ces zones.
Accessibles de chez moi, je dirais il y a la Valentine, ouais, la zone industrielle des Pins de Lude et la plus grande plan de campagne.
Plan de campagne.
7 jours sur 7.
Ouais, il y en a 3.
Presque 24 heures sur 24.
Pas loin de chez vous. Et plan de campagne étant effectivement la plus grosse. C'est que du béton.
C'est que du béton.
Ouais.
La Valentine qui est la plus proche puisqu'elle se situe à moins de, je dirais, à moins de 9 km de chez moi. Avec des animaux, avec des potagers, tout ça. Et
puis, vous avez connu ça avec les animaux, les potagers?
Oui. Et il n'y a pas si longtemps que ça, et puis bah, tout ça, ça a disparu parce que bien évidemment, ça a été revendu pour des profits à des grands promoteurs.
Mmh.
Ce qui est un gros problème à Marseille, hein, parce qu'il y a beaucoup de petites maisons qui disparaissent et de belles maisons anciennes qui disparaissent au profit des promoteurs. Mmh. Parce que bien sûr, ça rapporte plus.
Alors, la question, Virginie, c'est pas une question piège, c'est pas une question gênante. Hein. Est-ce que vous y allez faire vos courses, vous?
Le problème, c'est que ces zones commerciales qu'on a autour de Marseille,
ouais,
ont vidé les magasins de nos quartiers.
C'est ça.
Donc, on ne nous laisse pas tellement le choix. Mmh. Là, par exemple, cet après-midi, je vais aller à la Valentine avec ma fille pour lui acheter une tenue de foot parce qu'il n'y a pas de magasin de sport à des prix accessibles, on va dire, en centre-ville. Et puis bon, vous le savez, en ce moment, Marseille, c'est un peu compliqué avec certaines...
C'est toujours compliqué. Et en même temps, c'est une ville qui a tellement de charme. C'est une ville qui est tellement belle. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et que le vivre ensemble, il est compliqué. Ça, c'est sûr.
Elle le perd, ce charme, parce que la verdure, il n'y en a pratiquement plus.
Ouais, ça, c'est
que terrible. Ce soit en centre-ville ou que ce soit en périphérie, de plus en plus, on construit.
Et on enlève les arbres.
Et bien sûr, on a enlevé des arbres pour construire des pistes cyclables, qui fait que en temps de canicule, le bitume est tellement chaud que personne ne fait de vélo. Ça fait fondre les pneus.
Logique, ouais. Là, effectivement, on marche sur la tête parfois.
Mais complètement.
Il y a aussi à l'approche de ces zones commerciales, vous avez parlé de la Valentine, de plan de campagne, sur des kilomètres, ces immenses panneaux publicitaires qui enlaidissent en plus, même sans y aller, le parcours. Quoi.
Mais bien sûr, ils en profitent parce qu'en plus de ça, comme c'est ta fille de bouchon, vous avez le temps de les revoir, les panneaux publicitaires et de les lire. Donc en fait, un panneau publicitaire en présente trois, puisque c'est ceux qui sont automatiques, vous savez, qui vous changent l'image toutes les 30 secondes. Ou... Donc, et il y en a de partout. C'est quelque chose aussi qui permet de rapporter, je pense, des fonds à la mairie, de louer ces espaces de panneaux publicitaires.
Donc il y a une volonté politique au niveau national de changer un peu les choses, en tout cas, et d'imposer de la verdure, et peut-être aussi des logements, le fait que des gens habitent sur place et que ça donne à ces quartiers, enfin ces quartiers, je ne sais pas si on peut appeler ça des quartiers, à ces secteurs, un peu plus de vie.
C'est positif. Faire devenir la Valentine, par exemple, c'est un village à la base.
C'est ça.
Ils ont été greffés au village, la zone commerciale. Plan de campagne, c'est un village. C'est la Penne-sur-Yvonne. C'est un village à la base. Il y a plein de petits villages autour. Et au milieu, ils ont greffé cette grande zone commerciale. La zone industrielle des Paludes, c'est Aubagne. Donc, il y avait déjà de l'habitation à proximité. Après, verdir, c'est une bonne chose. Moi, la question que je me pose, c'est qui va faire l'entretien de tout ça, puisqu'il faut embaucher des gens quand on a déjà plus de cantonniers dans nos rues. Donc,
alors ça, c'est une autre question. Vous avez raison de voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez. Mais effectivement, si on verdit, si on met des logements, on va falloir entretenir tout ça. Parce que ça coûtera plus cher, effectivement, que d'entretenir des espaces verts, que d'entretenir des parkings. Ça, c'est sûr.
Qui va-t-on mettre dans ces logements ? Est-ce qu'on va encore faire du parkage comme on a fait dans les quartiers nord ?
Ça tient la route s'il y a des transports, par exemple, s'il y a des moyens de transport.
Alors, pour aller à Plan de Campagne ou à la zone industrielle des Paludes, il y a des bus. Il y a même sur la portion d'autoroute qui est là, il y a même une voie réservée aux bus.
Non, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Donc, c'est déjà ça.
C'est desservi.
Voilà, et ben je vous remercie beaucoup Virginie. En tout cas, on a bien compris que vous souhaitiez qu'on remette un petit peu de la verdure dans ce béton. Merci beaucoup et bonne journée du côté de Marseille. Courte pause et puis on vous retrouve avec Mathieu du côté de Toulouse, avec Hugo du côté de Vannes. Ils ont des choses à nous dire. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30, Vincent Parisot vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Avec Vincent Parisot sur RTL.
Ils disent que les Français vivent d'amour et de vin frais et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris. Il y en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame et qu'entre deux Alka-Seltzer, on se balade la culotte en l'air à les entendre. On croirait bien.
Sardou, on va en parler évidemment. Pourquoi ? Parce que Michel Sardou chante pour la dernière fois. Peut-être pas la dernière fois, on l'espère, mais en tout cas, aujourd'hui, officiellement, sur le papier, ce sera son dernier concert ce soir à Brest. Et on entend évidemment saluer son incroyable carrière, saluer le chanteur qui nous accompagne depuis des décennies. Et qu'on aime ou qu'on déteste d'ailleurs, hein, mais en tout cas, et d'ailleurs vous pourrez nous le dire, qui à chaque fois qu'il intervient, chaque fois qu'il chante, nous fait quelque chose. Moi j'adore et j'aimerais bien qu'on en parle et qu'on partage tout ça avec vous au 3210. En attendant, et ça n'a rien à voir, il habite en France, mais on parle de la France moche. En tout cas, c'est une expression qui perdure pour qualifier ces zones commerciales à la sortie des grandes villes. Hugo nous appelle de Vannes. Bonjour Hugo.
Bonjour à tous.
Je vois aussi que vous êtes vous-même élève avocat, hein, que vous avez l'intention de devenir avocat, et c'est aussi peut-être avec, cette étiquette que vous voulez intervenir quand on parle d'imposer finalement une modification de ces zones commerciales.
Oui, disons que assez politiquement aussi, d'un point de vue purement libéral et de défense de la propriété privée, on va dire que le fait que l'État mette en place de l'argent, enfin mette en place des subventions et juge subjectivement qu'une zone est moche ou plus belle qu'une autre, alors que le beau est totalement subjectif, l'art de façon générale, et l'architecture est un art. Bon, je dis pas que toutes les zones commerciales sont superbes, loin de là.
Ou alors c'est qu'on a vraiment pas le même goût, Hugo.
Non, vraiment loin de là. Mais bon,
je comprends ce que je voulais dire. C'est une question de liberté.
Oui, et puis des propriétaires, c'est-à-dire que bon, je suis pas propriétaire d'une zone commerciale ou du foncier, mais je considère que ça reste au propriétaire de le faire. Et justement, les promoteurs sont eux intéressés par faire de beaux bâtiments et de belles habitations. Il n'y a pas besoin d'impulsion du maire, des maires des villes pour dire « oui, on va faire des logements ». C'est faux, c'est pas nécessaire. Si on laissait les promoteurs tout faire, bon, évidemment, c'est un peu utopique, mais si on les laissait faire...
Mais je vous arrête, Hugo, s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait déjà.
Non,
s'ils avaient voulu verdir, ils auraient verdi.
Ils peuvent pas, parce qu'il y a des PLU, des réglementations, on dit là, ce sera que des commerces, là, ce sera que des habitations,
etc. Ils peuvent mettre une pelouse à la place du bitume devant chaque magasin.
Ils peuvent et ils devraient.
Oui, c'est ça. Mais ce que vous voulez dire, je vais tirer un petit peu plus loin, c'est pas à l'État de s'occuper de ça, finalement.
Voilà. Et de mettre de l'argent. Bon, là, c'est une petite somme, 23 millions sur les 1000 milliards de dépenses publiques, 1200 milliards.
C'est une goutte d'eau.
C'est vraiment une goutte d'eau dans un océan. Mais si on accumule les 23 millions par-ci, 23 millions par-là, pour des questions aussi subjectives et, on va dire, ridicules, parce que peut-être, à la limite, on pourrait accepter que ce soit le maire qui décide de ça, mais que ce soit une décision ministérielle ou prise au plus haut de l'État, c'est quand même un détail.
Bah, disons que l'impulsion, elle vient de l'État, mais on était tout à l'heure avec le maire de Tours. C'est-à-dire que on les aide, d'ailleurs, on finance. Je crois qu'à Tours, ils vont récolter, je crois, 75 000 euros, qui va leur permettre de faire les études. Mais à l'arrivée, c'est quand même au niveau de la municipalité que tout cela va être décidé.
Sur le fond, ça reste les finances publiques qui payent, ce soit les habitants ou pas. Après, les promoteurs construiront, évidemment, à leurs frais, et puis ils vendront.
Je sais pas si vous entendiez, il y avait cet habitant de Bordeaux, plutôt de Mérignac, qui était allé s'installer dans la zone soleil. Il disait, en fait, c'est aussi très pratique, parce que lui, il a les magasins, il a les transports. Alors, il disait, le quartier n'est pas folichon.
Mais
c'est très pratique, très accessible.
Je pense qu'il faut laisser le choix aux gens. Il y a des gens qui vont dire c'est moche, il faudrait pas d'habitation, d'autres qui vont dire non, c'est super, faudrait plein. Je pense qu'il faut laisser le marché, on va dire, décider. Et puis, c'est ce que disait l'urbaniste Alain Berthaud, qui a 90 ans, il a fait 50 ans de carrière. Et sa conclusion d'urbaniste, c'est faut laisser le marché faire. Les villes planifiées, ça marche pas. Donc, faut laisser les habitants décider. Et puis, on verra ce que ça donne.
Écoutez, en tout cas, c'est votre point de vue très libéral, Hugo. Vous avez bien fait de l'exprimer. On va conclure très rapidement parce que le temps nous manque avec Mathieu à Toulouse. Bonjour Mathieu.
Bonjour Vincent et bonjour tout le monde.
Livreur du côté de Toulouse, vous avez constaté que du côté de Toulouse, dans le centre, en tout cas, ça commence à retrouver un peu de verdure.
En fait, moi j'ai eu la chance, c'est mon boulot de faire un peu toute la France.
Oui.
Et c'est vrai quand la dame parlait de Marseille, c'est vrai que Marseille c'est très très bétonné.
Oui.
Il y a eu quelques villes comme ça qui sont très grises, tout ça.
Oui.
Et Toulouse, alors pas pour défendre ma ville, même si j'en suis très fier, mais on sent qu'il y a un relan, en fait, de verdure partout.
Ah ben c'est bien.
Ça se remodernise et il y a beaucoup de trams, de bus qui font.
Oui.
Et on le voit, en fait, super verduré. Des projets qui arrivent à Toulouse, donc je sais pas si vous tapez sur votre écran, vous allez le voir, la grande tour de Toulouse.
Oui.
C'est un projet qui, depuis des années, ils vont y arriver à le faire. Et vous le voyez, c'est très moderne, c'est verduré, c'est un projet qui...
Voilà, donc ça a commencé, vous voulez dire que dans certaines villes ça a commencé, vous qui voyagez beaucoup, vous avez pu voir que, en tout cas dans votre... Et je pense que l'été, quand il fait très chaud, c'est intéressant d'être dans un petit coin de verdure, plutôt que d'être sur du béton.
C'est un paradoxe, parce qu'il y a, on fait beaucoup de centres commerciaux aussi, ici. On refait tout, donc c'est vert, mais on met beaucoup aussi de panneaux photovoltaïques, donc partout, on s'égare partout, donc il y a ça maintenant qui encombre les paysages. Il y a plein de... c'est paradoxal. Il y a beaucoup de verdure, mais il y a plein de choses aussi qui se mettent à côté.
Eh ben merci en tout cas, c'est dit. Et on ira regarder un petit peu ce qui se fait du côté de Toulouse, qui est peut-être la ville rose, un peu leader dans ce domaine. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait le 32-10. Un petit peu plus d'une demi-heure de l'heure du crime. 14h30, c'est l'heure du crime. Chaque jour sur RTL. Et chaque jour, un petit peu avant 14h... Son auteur, son grand présentateur, celui que le monde entier nous envie, Jean-Alphonse Richard.
Oui, évidemment, au moins.
Bah bien sûr, viens nous donner le programme de cette heure du crime.
Eh bien écoutez mon cher Vincent Parisot, oui. Aujourd'hui c'est une affaire que sûrement vous connaissez, c'est l'affaire du docteur Sam Shepard. C'est lui qui a inspiré le personnage du fugitif Richard Kimball à la série télé et puis le film 1954, on est à Cleveland. Il est accusé du meurtre de sa femme, il va être condamné à la prison à vie, il a toujours démenti les faits. Et pour la première fois dans cette histoire, et c'est ça qui est extraordinaire, la défense va s'appuyer sur une nouvelle technique, la morpho-analyse des taches de sang, l'étude des taches de sang. C'est là que ça sort, on est là vraiment dans les années 50. Et ces taches de sang vont innocenter le docteur Sam Shepard. Il mourra d'ailleurs quelques années juste après sa libération. Et c'est aujourd'hui cette affaire que je vous raconte, l'affaire du Docteur Shepard, le vrai Richard Kimball,
oui, parce que lui n'était qui a pas, fini par être innocenté.
Il n'était pas fugitif, mais il a été innocenté. Mmh. La science au chevet d'une erreur judiciaire, c'est dans l'heure du crime, 14h30.
Très bien, vous aimez Michel Sardou, Jean-Alphonse? Oui. Hop,
Maladie d'amour.
Ah bah, elle court.
Voilà.
Dans le cœur des enfants, de 7 à 77 ans. Merci, vous serez là à 14h30.
Mais avec plaisir, je suis toujours là à 14h30.
Nous, on va marquer une petite pause, on va vous informer et ensuite évoquer toute la carrière de Michel Sardou. Si vous en êtes fan, vous n'hésitez pas. 32-10, parce que ce soir, il chante pour la dernière fois.
Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
RTL.
Il est 14h01. Et pour nous informer, on a Victor Darcaz. Victor, à la une, le lycée professionnel Trégé à Bordeaux, cible depuis mardi de menaces contre les professeurs du nouveau, donc sur place.
Oui, Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale, s'est rendue ce matin dans l'établissement. Elle a annoncé la création de brigades de soutien en cas de problème.
Je déploierai une force mobile scolaire qui sera nationale et qui pourra être projetée dans les établissements qui connaîtraient des difficultés. Cette force scolaire est destinée à rassurer les enseignants et les équipes éducatives. Ce seront des CPE, ce seront des personnels qui viendront aider les chefs d'établissement pendant un temps qui pourra être de 3 semaines, d'un mois, le temps que la situation se stabilise s'il y a une situation de crise. Et nous aurons une vingtaine de personnes pour commencer qui travailleront dans cette équipe nationale.
Nicole Belloubet au micro de Clara Echiari.
Alors également dans l'actualité, on en a parlé assez longuement dans l'émission pour l'instant, le Sénat qui propose dans un rapport la création d'une possible carte famille monoparentale.
Oui, pour ouvrir de nouveaux droits pour les familles monoparentales, le but de cette carte, faciliter l'accès à une place en crèche, limiter les coûts de la cantine, des transports publics, aménager le temps de travail si nécessaire et enfin permettre aux enfants d'accéder à des loisirs et activités sportives. On rappelle, selon l'INSEE, c'est une famille sur quatre est monoparentale et 84% d'entre elles sont composées d'une mère isolée.
On parle automobile puisque Renault annonce 330 millions d'euros d'investissement dans son usine de Sandouville.
Annonce du directeur général de Renault, Luca De Meo, en déplacement en Seine-Maritime. L'usine de Sandouville accueillera la fabrication d'un nouvel utilitaire 100% électrique et qui sera produit d'ici 2026. L'investissement permettra la création de 550 postes en 4 ans, dont 400 CDI.
Alors parlons de la météo en ce vendredi, début d'un long week-end.
Une bande pluvieuse s'étalera le matin des Pyrénées au nord Pas-de-Calais en passant par le Massif central et le centre. Elle se décalera vers la moitié est en cours d'après-midi. Les pluies seront fortes à l'est du Rhône. Il neigera dans les Alpes à partir de 1800 mètres. De part et d'autre de cette bande pluvieuse, le ciel sera variable et les pluies très rares. Le vent du sud atteindra 80 km/h sur le littoral méditerranéen et dans la vallée du Rhône. Les températures le matin 5 à 10 degrés en général, 11 à 14 près de la Méditerranée. L'après-midi, 12 à 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 19 dans la moitié sud, et en pleine d'Alsace.
Merci beaucoup Victor. Est-ce que vous faites souvent la Java?
Ça peut m'arriver.
Bon, est-ce que vous savez où on la fait vraiment bien la Java?
Allez-y.
À Broadway.
Quand on fait la Java le samedi à Broadway, on dort sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est un coup de balai, un grand coup d'arrosoir. Et on ne sait plus à midi si l'on est à Clichy ou en Californie.
Bonjour Sylvie.
Bonjour Vincent.
Du côté de Saint-Malo, Sylvie, vous allez faire la Java ce soir?
Absolument.
Vous allez faire la Java de Brest?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Je vous signale, vous allez ce soir aller à Brest, vous allez assister au dernier concert de Michel Sardou. Ça vous fait quelque chose, j'imagine?
Ah, mais carrément, c'est énorme.
Vous y pensez depuis quand? Parce que, en fait, le concert de Brest est un concert qui avait été annulé précédemment, je crois.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, nous, on a eu la chance de le voir au mois de février à Rennes.
Ouais.
Mais non, c'est divin. Moi, la dernière fois que je l'avais vu, j'avais 17 ans et j'en ai 60.
Voilà. Vous êtes fan depuis tout ce temps-là et vous avez vu combien de fois alors?
En tout, ça fera 3 fois, mais d'accord. Moi, je suis amoureuse depuis toute petite, hein, avec mes parents m'ont mis dedans très tôt, quoi.
Ouais. Amoureuse, le mot n'est pas trop fort, Sylvie?
Non.
Et toujours aussi amoureuse de lui comme au premier jour?
Exactement. Non, puis son répertoire, c'est complètement fou, quoi. Il n'y a rien à jeter.
C'est-à-dire que vous n'attendez pas une chanson plus que les autres ce soir?
Non, du tout.
Une question personnelle concernant Michel Sardou et son caractère bien trempé.
J'adore.
Et sa vision de la société de 2024 qui est la sienne et qui est parfois un petit peu chahutée. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, mais moi, je suis complètement raccord avec lui. Moi, je suis tellement dégoûtée de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend.
Ouais.
Et moi, je pense qu'il faut un bon coup de balai dans cette société, un bon coup de ménage, beaucoup de réformes, et je pense que tout ira mieux après ça. Mais bon, le Père Noël, c'est le 25 décembre.
Ouais, c'est ça. Vous allez attendre un peu pour le Père Noël, mais par contre, pour Sardou, vous n'allez pas attendre longtemps. Donc, vous êtes encore sur Saint-Malo, vous n'êtes pas encore parti pour Brest.
Non, du tout.
Bon.
Non.
Ça va être en fin d'après-midi. Vous savez où vous serez assis?
Devant.
Comment ça, devant? Devant? Premier rang?
Ouais.
Ah ouais.
c'est réservé depuis quand même décembre 2022.
Ah oui, décembre 2022, donc ça fait un an et demi. Donc place au premier rang pour voir le dernier concert de Michel Sardou.
Voilà.
Bon, là je pense que effectivement c'est un concert, des souvenirs pour la vie, hein, là que vous allez.
Oh mais c'est magnifique, là je vais filmer, je vais bombarder, voilà.
Vous nous enverrez les photos.
Voilà,
vous mettrez ça sur l'appli RTL si vous le pouvez. Je vous remercie beaucoup Sylvie, je vous souhaite un super concert. Franchement, la chanson qui va vous faire lever, enfin je pense que vous serez debout du début à la fin, mais
carrément.
La chanson que vous attendez vraiment et qui va vous toucher au plus profond du cœur.
Moi j'en ai plusieurs, j'ai Le Mauvais Homme, y en a une qui s'appelle Si j'étais... comment elle s'appelle cette chanson, zut? il y en a tellement. Le Mauvais Homme, je crois que c'est une de mes préférées avec Je vais t'aimer.
Le Mauvais Homme et Je vais t'aimer. J'espère qu'elles seront dans ce qu'on appelle la setlist, son programme ce soir. Je vous remercie, je vous embrasse Sylvie.
Moi aussi, à bientôt.
Et beau concert à Brest, on fait une courte pause. Et alors, ils sont nombreux, les fans, les inconditionnels de Sardou à avoir fait le 3210. On va les retrouver dans un instant. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Vincent Parizeau. Les auditeurs ont la parole.
Avec Vincent Parizeau sur RTL.
À faire pâlir tous les marquis de Sade. À faire rougir les putains de la rade. À faire crier grâce à tous les échos. À faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour Vincent.
Ça met les poils, comme on dit, hein, ce genre de...
Je suis très contente de parler de Michel sur RTL. J'avais parlé avec lui il y a 2 ans pour son anniversaire, pour ses 75 ans, quand les auditeurs ont la parole.
Ah oui, avec Pascal, j'imagine.
Avec Pascal, voilà.
Adressé directement à lui, parce que vous êtes vraiment... Une fan, j'ai envie de dire, genre fan absolu.
Super fan.
Ouais.
Fan absolu depuis 46 ans.
Ah oui, c'est-à-dire depuis quoi? Depuis le milieu des années 70. Je regarde votre âge, je fais un rapide calcul.
J'ai 57 ans et j'ai connu, j'avais à peu près une dizaine d'années.
Oui.
Et depuis tout ce temps, j'ai vu tous ces concerts pratiquement, une fois, deux fois, trois fois, le même concert. J'ai tous ces CD, ces DVD, ces livres, ces articles de journaux, et j'en passe, les pins, les... Je peux pas, voilà, je suis la super fan.
Ah ben, bah, j'imagine, et la dernière tournée, vous êtes allé le voir encore?
Deux fois, oui. En novembre à Saint-Étienne, et là je suis retournée le 25 mars à Clermont-Ferrand.
Et vous arrivez à vous dire que ben c'est fini?
Non, c'est pas fini, non. Non, non.
Comment ça, c'est pas fini? Normalement, c'est fini. En tout cas, la scène, non, c'est fini.
Il peut pas nous laisser, c'est pas possible.
Ah, donc vous vous adressez directement à lui, là, en lui disant non, faut continuer.
Ouais. Je souhaite une bonne santé, un bon repos, mais il peut pas nous laisser, c'est pas possible. Tous ces milliers de fans, il est obligé de revenir.
Qu'est-ce qui vous plaît tant chez lui? J'allais dire son honnêteté.
L'homme, ce qu'il dit, son caractère, son mauvais caractère.
C'est sûr qu'il n'a pas très bon caractère, hein, le Sardou.
C'est pas grave, on l'aime pour ça, on l'aime pour tout. On l'aime pour tout.
Ouais.
Sa personnalité, ses chansons, son spectacle, le dernier spectacle, là, il est vraiment magnifique. Magnifique. C'est un tout,
Et vous êtes allé le voir au théâtre aussi, d'ailleurs.
Plusieurs fois au théâtre, partout, tout le temps. Voilà. À chaque fois, il a ça. J'ai un bouquet. À chaque fois, je lui remets le bouquet. J'ai des photos de lui.
Et vous faites partie d'un fan club ou
plusieurs
parallèlement.
On s'échange les photos. Je suis la fan inconditionnelle.
J'imagine que ce soir vous aurez une pensée évidemment pour lui pour tous ceux qui sont à Brest, mais j'ai l'impression que vous êtes vous-même intimement persuadé que l'histoire n'est pas, il y a pas le mot fin.
Non, il est fatigué, c'est certain, parce que après 2 heures de spectacle, il sort de scène, il est très fatigué.
Ouais.
Mais non, il va revenir forcément. Il va revenir pour nous.
Évidemment. Une chanson, c'est quoi votre chanson fétiche?
Il y en a tellement, je sais pas, Je vais t'aimer par exemple.
Voilà,
on chante à tue-tête à ces spectacles,
du début à la fin, vous chantez avec lui.
Et j'attends ma photo dédicacée, Michel. J'attends ma photo dédicacée.
Michel, si tu nous écoutes, Elisabeth de Montrond-les-Bains attend sa photo.
Dans la Loire. Voilà.
Je vous embrasse et vous allez pouvoir écouter du Sardou à tue-tête maintenant.
Merci à vous. et Michel, bon repos et à très bientôt, Michel.
Voilà, et c'est dit sur l'antenne d'RTL. Merci, Elisabeth.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir, Elisabeth.
Au revoir.
En bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des patins aux conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un flic ou pompier de service, et donner le sein à mon fils.
Alors Myriam a fait le 32-10, Myriam qui est à Nancy. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Alors on était à l'instant avec cette fan absolue qui nous disait, en sortant de scène, il est fatigué, mais c'est quand même extraordinaire. Vous êtes allé le voir récemment, je crois, à Nancy.
Je suis allée à Nancy, oui, au concert de Nancy, que j'aurais pas loupé pour rien au monde. Je suis aussi génération Sardou.
Ouais.
Mais c'est vrai que, comme je l'indiquais à votre standardiste, je pense qu'il est vraiment fatigué et que le concert c'était un petit peu difficile, je trouve.
Ouais.
Et que heureusement il y a beaucoup de scénographie, il y a beaucoup de chanteurs avec lui, il y a beaucoup, et puis il y a
beaucoup de
extraordinaire enthousiasme, oui, ouais. Des choristes et tout, ouais. Mais on le sent très fatigué et puis je pense que c'est mieux qu'il s'arrête, c'est raisonnable.
Ouais. Voilà. Pas faire le tour de trop.
Parce que après, ça risque de laisser peut-être des impressions un peu plus mitigées, ce qui serait très dommage, alors que c'est un formidable chanteur. Je pense qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. C'est mon point de vue. Voilà.
Écoutez, vous faites très bien de nous le donner. Ça n'empêche pas que vous adorez le chanteur, que vous êtes allé le voir, vous l'aimez, comme des milliers d'auditeurs d'RTL qui nous font savoir actuellement au 32-10. J'ai envie de vous poser la question aussi. Chanson fétiche de Michel Sardou, s'il devait y en avoir qu'une que vous emmeniez sur une île déserte, Myriam, ça serait quoi?
Alors moi je dis comme tous les autres, toutes les chansons sont magnifiques, mais j'aime beaucoup Les Vieux Mariés.
Ah, Les Vieux Mariés.
Elle est magnifique cette chanson.
On vient de marier le dernier, c'est
voilà.
ça.
Voilà, ah, ouais. c'est ça. Voilà, elle est magnifique cette chanson-là.
Tous nos enfants sont désormais.
Voilà, elle est superbe.
Ce soir il me vient une idée, si l'on pensait un peu à nous.
À nous.
Eh oui, Myriam. Ouais. Écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée du côté de Nancy.
Écoutez, merci. Bonne journée à vous aussi. Merci. Au revoir.
À bientôt. Je voudrais qu'on accueille Christophe. Christophe qui a fait le 32-10. Bonjour, Christophe.
Bonjour, Vincent.
Alors,
permettez-moi, que je suis très, très ému que vous me preniez à l'antenne.
Ah bon? Pourquoi? Parce que vous avez un petit peu peur de vous exprimer.
Non, puis de parler de Sardou parce que. Ouais. Alors moi j'ai pas vu de concert, je suis pas un fan, mais Sardou c'est ma jeunesse, c'est mon enfance. Ouais. C'était régulièrement, on avait.
Mais vous l'avez redécouvert et vous l'avez redécouvert avec ça.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. Ce soir.
C'est vrai, Christophe, avec la famille Bélier, c'est reparti pour un tour.
Exactement, la famille Bélier m'a fait relancer mon intérêt pour Michel Sardou.
Ouais.
La dernière polémique, Juliette Armanet aussi. ma femme, elle me dit, mais pourquoi tu mets du Sardou? Bah, j'ai dit à Juliette Armanet qui a dit des bêtises.
Ouais.
On met du Sardou. Et vous voyez, il y a une chose que j'aime.
Les lacs du Connemara, évidemment.
Ah, ouais. Exactement. Ouais. Comme les lacs du Connemara. Merci.
Ouais.
Et il y a une chose, c'est vous écoutez deux notes d'une chanson de Sardou.
Et paf.
Et les
paroles viennent. Je suis entièrement d'accord avec vous, Christophe. Oui. Je suis beaucoup moins fan que toutes celles et ceux qui sont intervenus. Mais on entend deux notes et c'est tous les souvenirs. La boîte à souvenirs s'ouvre à ce moment-là automatiquement dans le cerveau. C'est magique. Oui.
Exactement. Ouais. Exactement. On est. Je sais pas. Je sais pas quel âge vous avez.
Bah, j'ai un petit peu plus que vous.
Ah bon,
j'ai 50 plus que vous, voyez, Christophe.
Ah oui, d'accord. Okay.
Ah bah oui, ça commence à faire, je suis bien d'accord.
Mais on se rappelle notre enfance, notre jeunesse.
Bien sûr.
Les émissions de Guy Lux.
Ça y est, on en voit tout. Marie-Thie Gilbert Carpentier. On y est.
On y est, et puis il y a la musique de Sardou. Ouais. Puis on est, comme disait, dans la famille Bélier, c'est intemporel.
Oui, bien sûr. Un dernier détour par le 32-10. Je vous embrasse, Christophe, je vous remercie.
Merci beaucoup, Vincent.
Bonne journée à vous. Joël, un tout petit mot, parce que c'est important. Michel Sardou, vous lui devez votre mariage. Bonjour, Joël.
Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, moi, je voulais témoigner, car j'ai rencontré mon époux. Il y aura bientôt 48 ans. Et nous nous sommes mariés grâce à Michel Sardou, parce que j'étais avec une amie, et nous allions voir son concert. Il se produisait à Tours.
Ouais.
Et j'ai rencontré mon ami, mon mari, qui était chez les parents de mon ami. Et il se trouve qu'avec une maladresse, il a renversé son verre de Porto sur moi. Et c'est ce qui a fait le déclic. Et nous sommes mariés depuis 47 ans.
Grâce à Michel Sardou.
Grâce à Michel Sardou, tout à fait.
Vous penserez avec votre mari ce soir à Michel Sardou qui chante pour la dernière fois sur scène. Ce sera à Brest. Vous avez été vraiment formidable. Je vous remercie beaucoup, Joël. Je vous souhaite une belle journée. Vous avez été vraiment très nombreux et on aurait pu continuer l'émission longtemps comme ça à saluer l'incroyable carrière de Michel Sardou qui, pour ce qui concerne la scène, va s'arrêter ce soir. Il est 14h20. Voilà, mine de rien, l'heure tourne et ça passe vite quand on parle de Sardou. On va aller au bout du monde avec un auditeur du bout du monde. Mais vous avez peut-être un indice à nous donner, cher Victor.
Écoutez, un indice sonore.
Oui.
Oh, on n'a pas d'indice
sonore. Non, vous l'avez pas en magasin, l'indice sonore?
C'est pas grave. Eh bien, écoutez, on part dans un pays qui partage le plus haut sommet du monde dans la chaîne de montagnes de l'Himalaya.
Ouais.
Vous avez une idée du pays dans lequel on se rend? Envoyez-nous une réponse sur
Dans les années 70, il y avait pas mal de babacools qui cherchaient les chemins pour aller dans cette ville. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, bah, peut-être. 32-10.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Vincent Parisot.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et avant de partir au bout du monde, j'aimerais vous dire que lundi, bien évidemment, vous allez retrouver Éric Brunet. Mais je vous signale que le lendemain, mardi, eh bien, ce sera le grand jury des auditeurs. Avec comme invité mardi, Marion Maréchal, qui est tête de liste, évidemment, du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Marion Maréchal, dans le grand jury des auditeurs. Et pour lui poser toutes vos questions, eh bien, vous pourrez faire le 3210 ou poser directement votre question sur l'appli RTL. Surtout, vous n'hésitez pas. Enzo, est-ce qu'on a un gagnant pour notre destination du bout du monde ?
Oui, tout à fait, c'est Richard de Gervais qui remporte le guide du routard du Népal vu qu'on part à Katmandou.
Eh bien voilà, direction Katmandou, sac à dos, et on retrouve Alain. Bonjour Alain.
Oui, ah. Bonjour, namasté du Népal.
Namasté, effectivement. Il est quelle heure chez vous ? 19h, c'est ça ? Quelque chose comme ça ?
Il est 19h10.
Alors, vous allez tout d'abord nous expliquer ce que vous faites au Népal et au Tibet, vous-même ancien inspecteur des finances publiques à Bercy, c'est ça, ex-cadre de Bercy, ça doit vous changer un peu.
Ouais, ça change un peu. C'est un parcours un petit peu atypique, on va dire.
Et d'abord, quel a été le détonateur ? Pourquoi vous êtes parti ?
Ben, je pratiquais la haute montagne. Un jour, on m'a parlé du Népal. Comme la plupart peut-être des auditeurs, je ne savais même pas où était le Népal sur une carte.
Ouais.
Et en fait, je me suis adressé à une agence et 3 mois plus tard, j'étais autour des Annapurna, sur un des plus beaux treks qu'on peut faire au Népal.
Ouais.
Donc, c'était 96. Et là, j'ai été bouleversé par surtout les conditions des écoles. C'est-à-dire, pour moi, je voyais des cages à poules. Et donc, j'avais promis à mon guide népalais qu'un jour, je viendrais au Népal faire un petit peu d'humanitaire, aider les écoles. Puis, 97, je suis parti au Tibet. Là, deuxième gros choc dans ma vie. Hein, je suis allé de Lhasa jusqu'au Mont Kailash. 98, je suis retourné au Tibet pour soigner le mal par le mal parce que je n'arrivais pas à décrocher, quoi.
Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous rentriez en France et vous n'aviez qu'une envie, c'était de repartir.
Ouais, quand je prenais le métro, passait, moi je restais à quai. Et quand je voyais les poubelles de Bercy débordant de papier tout à fait inutile, je me disais comment ça se fait qu'on gaspille autant alors qu'à l'autre bout du monde, il y a des gamins qui n'ont même pas un cahier de brouillon pour aller à l'école. Donc tout ça m'a... J'ai 5 ans à le digérer, à le préparer. Et puis en 2000, j'ai pris une dispo. Et puis je suis venu, j'ai tout donné à Emmaüs, tout ce que j'avais à Paris.
Je vais vous dire, je suis vraiment admiratif de ce que vous avez fait.
Je n'ai jamais été aussi libéré dans ma tête que le jour où j'ai vu mon appartement vide où j'avais plus rien. Donc je suis arrivé au Népal avec 2 valises, avec à peu près 60 kilos de bagages. J'avais gardé un costard pour rencontrer l'ambassadeur au cas où. Voilà, et puis je me suis lancé dans l'humanitaire. Voilà, si vous voulez que je vous fasse un bilan.
Non, parce que malheureusement, le temps nous manque. Mais ce que je voudrais deux choses.
Okay.
Que vous nous disiez ce qu'il faut, si on veut aller au Népal. C'est pas forcément la destination touristique la plus évidente, mais moi je sais je connais des jeunes filles dans ma famille qui y sont allées, notamment pour du trek, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut absolument voir ?
Écoutez, il y a les classiques, les lieux de comme Soyambounath, le Monkey Temple, c'est-à-dire un endroit de culte avec un gompa. Il y a le plus gros gompa du monde qui est à Bognath, où sont les réfugiés tibétains. Il y a le quartier des crémations, là c'est plus délicat, c'est Pashupatinath. Ça, après les anciennes places royales, Patan, Bhaktapur, ça c'est pour la vallée de Katmandou. Puis après, vous partez en trek, en groupe.
C'est ça.
Avec un guide.
Et vous organisez-vous des séjours, des treks
J'ai organisé, j'ai même été accompagnateur une fois au Népal et plusieurs fois au Tibet. Et je précise quand même, pour ceux que ça intéresse, qu'ils peuvent lire mon livre qui est paru en octobre 2022 qui s'appelle Himalaya à cœur ouvert. chez Idi Livre, où j'ai raconté tous ces voyages de 1996 jusqu'à 2010.
On va trouver ça. Himalaya à cœur ouvert, c'est votre livre. Merci, c'était court, mais ça nous a vraiment donné envie d'en savoir plus. Et puis surtout, moi je suis baba devant votre parcours d'ancien cadre de Bercy, inspecteur des finances publiques, qui est maintenant au Népal pour des raisons humanitaires. Merci encore. Jean-Alphonse Richard, ça va être à vous là.
Ouais, c'est à nous tout de suite, mon cher Vincent, avec aujourd'hui l'affaire du docteur Sam Shepard, innocenté grâce aux traces de sang.
Merci à vous tous, je vous retrouve à 18h.